Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. L'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. En plus clair, le microcrédit pour créer sa boîte, le microcrédit pour financer votre véhicule, votre permis, pour bénéficier d'accompagnement, pour bien démarrer ou développer son activité. Et pour nous présenter cette association, Sylvain Dumas, conseiller ADI Drôme Ardèche, installé à Valence.
C'est une structure qui a été créée en 1989 par Maria Novak, en s'inspirant des pratiques du microcrédit dans les pays en voie de développement, où des réseaux un peu parallèles aux banques existaient pour financer des petites entreprises du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat. Elle faisait le constat que ça se développait dans les pays en voie de développement. On a eu l'exemple bien connu de Mohamed Yunus au Bangladesh et son prix Nobel et sa Grameen Bank. Et donc, elle a, on peut dire, importé un outil des pays en voie de développement qui est le microcrédit. On est environ 400 salariés en France, plusieurs milliers, j'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs milliers de bénévoles qui s'impliquent auprès de créateurs d'entreprises en France. Donc au niveau de Drôme Ardèche, on est 3 salariés et une vingtaine de bénévoles. Et donc nos missions, elles sont à 3 niveaux. Une offre de services financiers, donc microcrédit et assurance. Une mission d'accompagnement sous forme de formation et de suivi de nos créateurs d'entreprise, et une mission qui est parfois un peu moins connue et qui est plus au niveau national, qui est un peu de lobbying, de plaidoyer pour les micro-entrepreneurs et pour les défendre, les représenter, notamment au niveau du débat en cours sur le statut des micro-entrepreneurs. On a des permanences à Romans, à Die, à Montélimar, pour vraiment pouvoir accueillir les publics qui seraient un peu éloignés de Valence et de pas devoir leur imposer un trajet long qui finalement les éloignerait encore une fois de l'accès au financement. Puisque notre principe d'intervention générale, c'est d'intervenir là où les autres n'interviennent pas, notamment les autres et les banques. Et la raison d'être du microcrédit, c'est de travailler avec les personnes exclues des banques de facto, soit parce que ils ont une situation sociale, familiale précaire, et donc les banques vont avoir des réticences à travailler avec des personnes qui sont au chômage ou RSA, soit parce qu'ils ont des projets qui sont calibrés, qui visent pas un chiffre d'affaires très important, parce qu'ils vont pas avoir un apport en capital et donc ils vont pas être, disons, dans les clous des banques classiques. On veut être accessible en termes de critères. Après, on peut pas financer tout le monde. Il faut que ce soit clair que parfois même on rend plus service en ne finançant pas certaines personnes parce que ils ont beau avoir un souhait, un rêve, parfois la réalité de leur projet ne leur permettrait pas de vivre et de faire face à leurs dettes si c'était le cas. Et alors on a un grand réseau de prescripteurs, Pôle emploi, donc selon le type de projet et la situation de la personne, ils peuvent nous l'envoyer. Soit les personnes nous découvrent sur internet, soit par le bouche à oreille qui marche très bien. On peut intervenir sur des projets dont le plan de financement global est de 20 000 euros. Et nous, on peut prêter jusqu'à 10 000 euros. En termes de production de prêts vraiment réalisés, pour la Drôme, on est environ à 120 microcrédits par an. Et au niveau de la France, on est à près de 100 000 microcrédits en 20 ans.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Yeah. à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur l'émission Biotope qui, je vous le rappelle, est diffusée simultanément sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol les jeudis à partir de 18h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Désir des Arts qui rassemble artistes et artisans d'art de Soue qui vous permet, le temps d'un week-end, de pénétrer le cœur des ateliers. Sur cette édition qui s'installe les 14 et 15 décembre à Soue, ce ne sont pas moins de 20 artistes et artisans d'art qui seront là pour vous entre l'atelier Terre à Pau, l'atelier Tournicotis, l'atelier La Forêt des Chapeaux, l'atelier Éclat de Cendre, l'atelier La Fibule, l'atelier Les Yeux Ouverts et enfin la salle des fêtes qui accueillera elle aussi pour l'occasion de nombreux artistes et artisans d'art. Pour nous présenter cette deuxième édition et pour nous parler de l'association Désir des Arts, j'ai le plaisir d'avoir dans les studios Adélaïde Motte avec nous, membre du conseil d'administration de l'association. Bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de la naissance de cette association Désir des Arts ?
Alors cette association est née de la rencontre des différents artisans d'art de Soue. Il y a l'atelier Tournicotis avec Jocelyne Néjon qui est notre présidente et qui tourne le bois. La Forêt des Chapeaux, notre trésorière, Carole Pervier, qui est modiste, qui fait des chapeaux somptueux. L'atelier La Fibule, bijoutier avec Bernard Bourelli aux commandes. Et l'atelier Éclat de Cendre, la dernière arrivée, qui sculpte la pierre. Et enfin, l'atelier des yeux ouverts, qui travaille l'image, sous forme de photos, mais aussi sous forme de vidéos. Et enfin, je suis potière dans l'atelier Terre à Pau.
Qu'est-ce qui rapproche ces nombreux artisans et artistes d'art sous le chapeau d'une association ?
Plus on est nombreux et plus on est fort. Et on s'entend bien, on s'amuse bien. On se nourrit les uns les autres. On est vraiment là pour promouvoir une qualité de travail. On est tous des passionnés. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour promouvoir l'artisanat d'art de manière locale et de façon agréable et chaleureuse. Donc nos ateliers sont ouverts toute l'année, soit sur rendez-vous, soit avec des horaires précis qui sont affichés, on a quasiment tous des sites internet, en tout cas des contacts. Vraiment, c'est le désir de travailler ensemble et essayer de promouvoir un artisanat de proximité. Faire en sorte que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé d'acheter de l'artisanat d'art qui viennent de l'autre bout de la planète. Il y a tout ce qu'il faut près de chez vous.
Vous avez peut-être été fatigué aussi de participer à tout ce à quoi les artistes et artisans d'art sont obligés de participer, c'est-à-dire les grands salons, les foires qui demandent de plus en plus des enjeux financiers pour les exposants.
Oui, on est tous fatigués de ces énormes structures qui font que les objets que l'on fabrique et que l'on vend vont être surfacturés, forcément, vu le prix du stand, vu les déplacements, en vue de l'empreinte économique et écologique que ça représente. Quoi de mieux que la vente directe ?
Surtout que, en plus, ça vous obligeait à quitter vos ateliers le temps d'un week-end, une semaine, quitter vos familles.
Voilà, ouais, c'est un confort pour tout le monde, je pense. Et puis surtout, ça crée une proximité entre les gens. C'est-à-dire que les gens qui viennent au sein de mon atelier sont vraiment les bienvenus constamment. Et je peux parler au nom de tout le monde. On est tous dans cette même dynamique d'ouverture et d'accueil. Parce que c'est intéressant de parler de son travail, de le montrer, de le partager. Ce qu'on peut pas faire derrière un stand dans des gros salons ou des énormes structures complètement impersonnelles. C'est vraiment cette dynamique. Là, nous sommes tous en train de travailler. C'est le début, donc ça se met en place, mais sur des œuvres communes. En ce moment, je travaille sur un pot qui va être habillé de bois par Jocelyne. Il est question de marier la pierre et la terre, il est question de marier les matériaux, de se confronter au cahier des charges de chacun d'entre nous. Ça complexifie beaucoup les choses, mais ça crée une effervescence extrêmement motivante. C'est le mariage des matériaux, de toute façon, est porteur pour l'objet, mais aussi pour nous, et donc ça recrée une dynamique humaine dans la matière, et qui se ressent et qui se pressent. Donc, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Les seules choses réelles qu'on a mises en commun, c'est de créer l'événement à venir pour le 14 et 15 décembre et une vitrine commune que vous pouvez voir à Soue, en face de l'oiseau sur sa branche, en face de la terrasse de l'oiseau sur sa branche, qu'on essaye de renouveler régulièrement.
Voilà donc un peu, en résumé, ce qu'est Désir des Arts. une toute nouvelle association, puisque
c'est la deuxième année.
Deux ans d'expérience, une toute nouvelle association d'artisans d'art qui propose bien sûr d'ouvrir leurs ateliers pour ce week-end des 14 et 15 décembre à de multiples autres artisans et artistes d'art. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est le travail que vous avez dû fournir sur un week-end, j'avais envie d'aborder avec toi l'envie aussi de défendre les métiers d'art. Est-ce qu'ils sont en danger, les métiers d'art, aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'ils sont en danger. Parce que forcément, ça engendre un surcoût pour chacun d'acquérir un objet, puisqu'il y a un travail conséquent dessus, du temps, parce qu'on a tous des charges, et voilà, donc forcément, il y a un coût, obligatoirement. Tous autant qu'on est là, dans cette association, on est vraiment porté par le fait que les objets doivent rester accessible financièrement, à peu près à la portée de tout le monde. C'est parfois difficile d'être à la portée de tout le monde, mais bon, voilà. On essaye de rester dans des tranches de prix accessibles parce qu'on aime nos métiers et parce qu'on considère que c'est tellement important d'être entouré d'objets usuels dans notre quotidien, qui soient faits dans le respect de notre environnement, dans le respect de la personne qui va l'utiliser, dans le respect de soi-même, dans un respect complet de ce que pourrait être l'humain s'il faisait un peu plus attention à lui.
Est-ce que vous êtes soutenu? Oui, pardon, excuse-moi.
Je crois que c'est important de défendre ce projet-là et je pense que notre société aujourd'hui est tellement emplie d'objets, on est emplie d'énormément de choses et nous, on recherche un petit peu de poésie dans tout ça. Voilà. Mais c'est pas facile de se frayer un chemin.
Est-ce que vous êtes soutenu par ailleurs ?
Il y a la Chambre des métiers les artisans d'art et il y a la Maison des artistes qui soutient les artistes. Il y a une volonté politique peut-être qui a l'air de se dessiner pour essayer de rassembler un petit peu tout le monde. Je sais pas sous quel statut, je sais pas encore sous quelle forme, on va voir comment ça va se dessiner dans le temps. Est-ce qu'on est soutenu ? Je pense qu'on est surtout soutenu par une population amoureuse du travail bien fait. Notre premier soutien est là, la passion de faire les choses et le regard des gens. Le soutien humain est de toute façon de loin le plus important.
Bon, alors on aborde cette exposition et la construction de cette exposition vente à Sceaux, donc les 14 et 15 décembre, un week-end pendant lequel les ateliers, pas moins de 6 ou 7, s'ouvrent à 20 artistes et artisans d'art. On a vu le déclencheur de cette élaboration d'événements. Maintenant, comment se construit, au gré des éditions, comment évolue ce genre de rencontre Désir des Arts, donc rencontre avec pas moins de 20 artistes et artisans d'art.
Au départ, il faut rassembler des gens. On ouvre nos ateliers, on invite chacun 2 à 3 artistes au sein de nos ateliers. L'aventure humaine est réelle, donc il faut que les choses, les objets s'associent. Notre cahier des charges, c'est que ce soit forcément des objets de qualité. On apprécie ou pas la beauté de l'objet, mais ce sont des objets de qualité. Les artistes présents ou artisans d'art sont pas loin. On a privilégié la proximité afin que, suite à cette rencontre, vous puissiez rejoindre les ateliers relativement facilement. Personne ne vient de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe. Je crois que c'est vraiment notre démarche est dans un travail de qualité et de proximité. Vraiment. Alors après, comment les choses se mettent en place ? Ben, au gré de nos rencontres et de nos connaissances, quel travail on a envie de promouvoir, en fait. Et puis après, ben, c'est un travail de communication et d'organisationnel. On a la chance d'être soutenu par une commune qui nous met pas de bâton dans les roues, au contraire. Et ça aide pas mal. Ça aide bien même d'avoir des locaux à disposition, d'avoir une démarche de village en fait. C'est très important. Ça permet aux gens de travailler ensemble et ça crée du lien au sein d'un village.
Après, on retrouve un petit peu l'ambiance des villages d'antan, quoi, où le tonnelier filait un coup de main au ferronnier et vice-versa.
Voilà, c'est vraiment ça, à tel point que là, on vient de créer un chemin des artisans d'art. Donc le village va être balisé en quelque sorte avec des galets rouges et noirs. Un jeu de piste. Le chemin du petit poussé. Vous pouvez sortir d'un atelier, rejoindre l'autre sans vous perdre.
On visite un petit peu avec toi les artisans et artistes d'art que tu peux connaître. Par exemple, sur l'atelier des yeux ouverts, seront invités donc Martha Blanc, artiste peintre, et Iso, que tu connais, qui est artiste forgeronne.
Voilà, donc Martha Blanche, je ne l'ai jamais rencontrée, j'ai hâte de cette rencontre. Iso, je la connais un petit peu, qu'elle travaille la forge, de très très beaux objets assez peu communs.
Dans quel coin elle est installée ?
Elle est en Ardèche, des objets assez gros, elle a vraiment une méthode de forge très poétique, arriver à lier le métal et le végétal, c'est-à-dire qu'elle transforme le métal, elle s'approche du végétal.
Alors sur l'atelier La Fibule, on aura l'occasion, alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, de voir le travail et de rencontrer Birgit Kirkham autour des créations de feutres et de laine, et Philippe Villard, un coutelier.
Alors lui, il est un petit peu plus dans le sud. Il travaille les couteaux, notamment il fait du damas. Il travaille très très bien le métal aussi.
Dominique Tavernier, donc que l'on connaît, musicien, qui a plein d'autres talents, entre autres la sculpture et le dessin.
Voilà, Dominique sera là. Il va apporter des petits objets afin que ce soit accessible aux bourses de tout le monde. Il va aussi apporter des dessins. Puis il va être présent surtout. Hein, voilà. Et lui, il sera à la salle des fêtes, ce qui lui permet d'avoir un peu plus de place pour s'étaler. Avec Béatrice Pécou, notamment, qui fait aussi des gros objets en sculpture, en mêlant du grillage, du plâtre. Un entremêlement de matériaux, souvent assez blanc, très très clair, des tons pastels. Elle fait aussi du dessin, de l'aquarelle, de la gravure. Nana, tout comme Dominique, c'est des gens assez complets, qui travaillent dans le sensible. Philippe Chastenet, qui travaille la vannerie, a une façon de mêler les osiers assez rigolote, marrante. C'est de la vannerie, mais pas de la vannerie traditionnelle. Il a suffisamment farfelu pour faire danser les brins d'osier.
Il y a eu un travail de mise en scène des espaces d'exposition.
Alors en fait, on a surtout été guidés par les volumes. Étant donné que la priorité, c'est d'ouvrir nos ateliers et de recevoir les gens au sein de nos ateliers, eh bien, en fonction des volumes dont on dispose dans les ateliers et de ce que les gens sont susceptibles d'apporter, il a fallu trouver le lieu où l'objet serait le mieux mis en valeur. Exemple, dans mon atelier de terre, il va y avoir de la maroquinerie. Ça n'a pas forcément un lien très direct, mais le cuir peut supporter un peu de poussière de terre. Sans gravité, ça n'aurait pas été très sympa pour quelqu'un comme Birgit Kirkham de déposer du feutre. Je pense que j'aurais du mal à nettoyer suffisamment mon atelier de terre pour préserver ces objets. Donc oui, ça a fait partie du plan dans le respect des objets. Et puis la capacité d'accueil des différents volumes. Par exemple, l'atelier des éclats de cendres est petit. On a préféré privilégier les photosculptures de Martine Maurer, puisqu'elle va occuper les murs, tandis que Sandrine Reynaud utilise la pièce avec ses sculptures. Voilà. Le mariage s'est fait en fonction des volumes.
Donc on rappelle, c'est 6 lieux et 6 personnes engagées.
7. Parce que l'atelier des yeux ouverts, c'est Vincent Zorzi pour la vidéo et Aurélie Lamour pour la photo.
Ah bah donc La Fibule avec Bernard Bourelli, qui lui, comme on le disait, est plutôt branché sur tout ce qui est bijoux.
Voilà.
La fameuse forêt des chapeaux avec Carole Pervier, Tournicotis avec Joss, on n'en a pas beaucoup parlé.
Alors Jocelyne Néjon tourne le bois de manière très 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 fine. Elle fait de la dentelle de bois. Alors, notamment en ce moment, elle travaille bien sur des petites boules tournées, puis ajourées d'une délicatesse assez effarante. Elle passe beaucoup de temps, évidemment, à choisir les essences, travailler le bois juste au bon moment de maturité pour pas qu'il fende, pour pas qu'il soit trop dur. Son atelier est ouvert du jeudi au dimanche toute l'année.
Et enfin, donc, ton atelier, qui est un atelier avant d'être une boutique, enfin, peut-être qu'il doit associer quand même les deux.
Les deux, oui.
Donc Adélaïde, parle-nous un petit peu de ton atelier.
Moi je travaille le grès, je travaille la terre pour la terre, donc je mets le minimum d'émail possible, donc je choisis mes terres avec précision, afin qu'elles soient agréables au toucher, mais tout de même suffisamment rugueuses pour qu'il se passe quelque chose dans la main. J'essaye au minimum d'y passer de l'émail afin qu'on continue d'avoir ce contact avec la terre. Évidemment, il y a de l'émail pour toutes les parties alimentaires ou porter les bols aux lèvres et pas s'abîmer les lèvres. Voilà, je travaille des objets utilitaires, tout comme des tables basses, des luminaires, de la sculpture, du modelage. J'essaye de marier au maximum les différentes techniques, les approches qu'on puisse avoir avec la terre. J'anime aussi des ateliers qui sont ouverts aux adultes le lundi matin et aux enfants le mardi soir. J'ai vraiment un désir de varier les techniques afin d'avoir une terre qui bouge, qui vibre et que quand on prend dans le creux de sa main, il se passe quelque chose. Que ce ne soit pas une matière lisse et inerte.
À toutes celles et tous ceux qui êtes à notre écoute, eh bien vous saurez certainement où aller les 14 et 15 décembre prochains, puisque le temps de ce week-end, vous pourrez rencontrer pas moins de 20 artistes et artisans d'art, donc tout au long de la journée, j'imagine.
Tout au long de la journée, le samedi, il y a un vernissage de midi à 13h, ce qui fait que les ateliers seront fermés durant une heure, puisqu'on sera tous à la salle des fêtes, où vous pourrez aussi voir une exposition commune sur la thématique, en espérant que tout le monde ait joué le jeu, du rouge et du noir. On est tous censés apporter une pièce représentative de notre travail avec du rouge et du noir, puisque ce sont les couleurs de l'association.
Peut-être que pour refermer cette petite discussion, Adélaïde, on pourrait rappeler les différents contacts possibles, si jamais on veut avoir un petit peu plus d'infos, si on veut avoir des renseignements.
http://desirdesarts.blog4ever.com. Je crois qu'il y a un contact depuis le blog.
Ouais,
c'est peut-être plus simple.
Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez vous rapprocher du site internet de l'Office du Tourisme de Sous-Francillon.
Voilà.
Qui met à votre disposition tous les contacts possibles et inimaginables. Merci Adélaïde.
Merci beaucoup.
Don't need you for sure. Your way.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Soutenue par Biovallée.
Cette semaine, l'émission Biotope met en lumière les artisans d'art. Installés à Piégros-la-Clastre, la reliure d'art qui vous accueille sur rendez-vous est tenue par Madame Korevitz Isabelle. Nous la retrouvons dans nos studios pour mieux comprendre sa démarche. Isabelle Korevitz, bonjour.
Bonjour.
Tu es relieuse.
Oui.
On le dit.
Relieuse d'art.
Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais nous expliquer ce qu'on range derrière le terme relieuse d'art ?
Expliquer ce que c'est que la reliure. Déjà, la reliure, c'est l'opération qui consiste à refaire tout l'extérieur normalement du livre, mais on peut aussi refaire l'intérieur. Souvent, on refait tout le livre, on démonte complètement le livre. On le recoud, forcément en amont on répare s'il y a à réparer, on remet des cartons neufs et selon les besoins, soit on remet la couverture d'origine, soit on crée une autre couverture. Des fois en fonction des désirs des propriétaires du livre, puisque c'est lui qui choisit et la matière et la couleur. On a plusieurs matières. On peut mettre, bon, ce qui est le plus connu, c'est le cuir, forcément, mais on peut mettre du papier, on peut mettre de la toile. Les toiles, il y a des super couleurs. On peut décorer les toiles, on peut décorer le cuir. On peut faire plein de choses, en fait, sur les reliures de livres. On a toutes sortes de publics. On a des administrations, on a des particuliers, on a des collectionneurs, on a un petit peu tout le monde, donc c'est super.
Les clients, on va dire, les plus importants peut-être que tu peux avoir, ce sont les mairies.
Les mairies sont des clients réguliers, puisque tous les ans, il faut relier les arrêtés du maire, les états civils, enfin des choses comme ça. Il y a aussi des créations, des fois, pour les albums photos de mariage, de baptême, ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. En fait... on peut proposer un maximum de choses hein, pour la reliure. Les gens qui ont envie... J'ai fait des carnets de voyage sur mesure pour des gens qui avaient un sac d'une dimension particulière et qui voulaient absolument le carnet pour aller dans leur sac. Et bon, bah, ça, c'est possible. Tout est possible, de toute façon. Souvent, ce que je propose aux gens, c'est de leur montrer le béaba de la reliure et après, ils se débrouillent tout seuls. S'ils ont besoin d'un conseil, ils peuvent me rappeler ou passer, mais c'est pas...
Donc, le mieux pour prendre contact avec toi, Isabelle, c'est déjà savoir que tu es installée à Piégros, sur la place de la Fontaine.
Oui, à côté de la mairie. Sinon, les gens peuvent me téléphoner au 06 21 79 01 49. Ou alors m'envoyer un mail, c'est mon nom tout entier, donc Isabelle Korevitz, tout attaché.
Alors avec deux O. Hein.
Oui, Korevitz, c'est C2OREVITS, @sfr.fr. Voilà.
Merci Isabelle.
Merci. Bonne journée.
Biotope.